Radio Okapi. Dans les termes les plus forts, les États-Unis d'Amérique ainsi que les envoyés spéciaux des Grands Lacs, de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni condamnent l'avancée continue du M23 sanctionné par l'ONU en RDC. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué conjoint rendu public hier vendredi dans la soirée. Pendant ces temps, sur le terrain au Nord Kivu, plus de 200 véhicules avec des marchandises importées à bord sont bloqués à Ishasha au nord de Rutshuru, aussi à Kayabayonga. Le président des boutiques et des Goma demande au gouvernement congolais de trouver urgemment une solution. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal le colonel Antoine Kitenge, commissaire provincial de la police dans le Lualaba. Il nous parle de la mesure interdisant les motocyclistes de Kolwezi d'accéder au centre-ville. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mademoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Les États-Unis d'Amérique ainsi que les envoyés spéciaux des Grands Lacs, de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni condamnent dans les termes les plus forts l'avancée continue du M23 sanctionné par l'ONU en République démocratique du Congo. La reprise de la violence depuis le 20 octobre, y compris dans et autour des villes de Rutshuru, Kiwanja, Rumangabo et Kibumba, sape les efforts de la paix et a aggravé l'insécurité et d'importantes souffrances humaines, déclare-t-il dans un communiqué conjoint rendu public hier vendredi dans la soirée. D'autres détails avec Pélé Kipelamondo.
Nous appelons le M23 à se retirer immédiatement, à mettre fin à tout acte violant le droit international et à cesser les hostilités, indiquent-ils dans leur communiqué conjoint. Ils disent réitérer leur soutien aux efforts diplomatiques régionaux, y compris les processus de Nairobi et de Luanda, qui favorisent la désescalade et créent les conditions d'une paix durable en RDC. Ils encouragent la reprise du dialogue par le biais de ces mécanismes et la participation des groupes armés non étatiques congolais au processus de Nairobi. Tout soutien aux acteurs armés non étatiques doit cesser, y compris les soutiens extérieurs au M23, ajoute-t-il. Ils appellent les pays de la région à utiliser tous les moyens à leur disposition pour demander une cessation immédiate des hostilités et une reprise immédiate des consultations sur des mesures concrètes pour désamorcer les tensions actuelles. Enfin, ils réaffirment leur attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des pays de la région des Grands Lacs. Par ailleurs, sachez que le président rwandais Paul Kagame a accepté d'aider les facilitateurs Uhuru Kenyatta à obtenir les cessez-le-feu et les retraits du M23 des positions conquises. Uhuru Kenyatta a en effet parlé au secrétaire général des Nations Unies ainsi qu'à certains chefs d'État sous-régionaux dont Félix Tshisekedi de la RDC, Evariste Ndayishimiye du Burundi et Paul Kagame du Rwanda. Avec le président rwandais, les facilitateurs ont évoqué les conditions humanitaires déplorables que traversent des populations du Nord Kivu suite aux affrontements entre l'armée congolaise et les M23.
Et puis le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie s'ouvre ce samedi à Djerba en Tunisie. La RDC prend part à ses assises en la personne du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, représentant personnel du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Pour Didier Manzinga, ministre congolais de l'intégration régionale, avec l'acceptation de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, il est important que le chef du gouvernement soit à Djerba pour faire le point de l'état d'avancement des préparatifs de ces Jeux et parler aussi de la situation sécuritaire dans l'est du pays à la suite de l'agression du Rwanda qui soutient le M23. Placé sous le thème « La connectivité dans la diversité », le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone, ce sommet attend 88 chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Et puis, au pays, les forces progressistes de la société civile appellent les pays membres du G7+1 et le Conseil de sécurité de l'ONU à imposer des sanctions militaires et économiques contre le Rwanda et ses dirigeants pour la guerre imposée à la RDC. Dans une déclaration devant la presse ce vendredi ici à Kinshasa, le porte-parole des forces progressistes de la société civile a dénoncé le manque de solidarité internationale vis-à-vis de la RDC en ces temps de guerre, contrairement au soutien à l'Ukraine qui traverse dénonce la même situation. Dany Singoma-Boss exige une résolution condamnant explicitement le Rwanda, ses dirigeants ainsi que ses alliés pour violation de la souveraineté nationale de la RDC et de les sommer à se retirer immédiatement de son territoire. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyoma.
Les forces progressistes de la société civile de la République démocratique du Congo demeurent profondément préoccupées par le développement de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, consécutivement à la résurgence de l'agression et la déstabilisation du territoire national par le Rwanda et ses alliés. Les forces progressistes de la société civile restent convaincues que la RDC fait face à une grande conspiration internationale et appelle toutes les forces de la nation à dénoncer avec véhémence l'hypocrisie du G7 et de toute la communauté internationale qui n'arrive pas à condamner sévèrement le Rwanda, à l'obliger de quitter le territoire national. Ensemble, marchons, résistons, disons non à la balkanisation, ensemble, soyons unis pour le Congo et rien que pour le Congo. Les forces progressistes de la société civile se disent déterminées à poursuivre la lutte et réaffirment l'appel à la mobilisation générale lancé en date du 30 octobre 2022.
Tout en soutenant la marche de ce samedi 19 novembre initiée par la société civile et celle de la Cinco du 4 décembre prochain, les forces progressistes de la société civile appellent l'ensemble de la population congolaise à s'y joindre pour dénoncer l'agression de la RDC par le Rwanda et le silence de la communauté internationale. Et puis en plus bref, Matata Mponyo sera jugée par la Cour constitutionnelle. Elle s'est déclarée compétente de juger tout ancien Premier ministre et Président de la République en fonction sur pied de l'article 64 de la Constitution. Cette décision fait suite à la requête de la Cour de cassation qui avait saisi la Cour constitutionnelle pour interpréter l'article 64, ce qu'elle a fait hier vendredi 18 novembre. Selon nos sources à la Cour constitutionnelle, il appartient maintenant à la Cour de cassation de se déclarer incompétente à connaître de l'affaire de la débâcle du parc agro-industriel de Bukangalonzo pour laquelle le sénateur Matata Mponyo est poursuivi et au procureur général près la Cour constitutionnelle de réactiver son action publique. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, au Nord Kivu, plus de 200 véhicules de commerçants de Goma chargés de marchandises importées en provenance de l'Ouganda sont depuis 2 semaines bloqués à la frontière de Ishasha, c'est au nord du territoire de Rutshuru. Des dizaines d'autres camions provenant du grand nord de la province avec de produits vivriers à bord sont également bloqués au niveau des Kanyabayonga. Le président de boutiquiers de Goma demande au gouvernement congolais de trouver urgemment une solution avant que des centaines d'opérateurs économiques n'en soient très affectés. Bernardine Diambo.
Cette situation provoque déjà une hausse vertigineuse de prix observée ces jours, non seulement dans la ville de Goma, mais aussi dans d'autres territoires dont Nyiragongo, Rutshuru et Masisi, approvisionnés à partir de Goma. Tout en déplorant cette situation, le président de boutiquier de Goma demande au gouvernement de trouver un couloir ou d'autres mécanismes pouvant permettre de faire passer ces véhicules jusqu'à Goma afin de ravitailler la population. Kembo Amnasi.
Je pense que le gouvernement est en train de s'atteler par rapport à ça pour qu'il puisse faire venir nos marchandises qui se trouvent par exemple à Chacha et d'autres véhicules qui sont à Kanyabayonga pour faire venir par exemple les sacs de manioc, des haricots, même les haricots ici a déjà pris l'ascenseur. Alors il faudrait que le gouvernement puisse rapidement penser à ça parce que d'ici 1 mois, 2 mois, la situation va s'empirer. Est-ce qu'on va s'approvisionner où? Par exemple, la farine de maïs, c'était à $20. Aujourd'hui, c'est à $30. Or, on achète son niveau de campagne.
De signaler que tous nos efforts sont restés vains pour contacter sur le sujet les conseillers spéciaux du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des finances. Pendant ce temps, à Goma, la loi de l'offre et la demande occasionne une spéculation au niveau des prix. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
Autre nouvelle, débutée le 6 novembre dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte, la 27e conférence climat COP27 touche pratiquement sa fin. En marge de ce grand rendez-vous, les associations locales de protection de l'environnement en République démocratique du Congo sollicitent du gouvernement un appui pour sauver la forêt victime de déforestation. C'est le cas de l'association pour la protection et le développement durable APED dans sigle, œuvrant dans les territoires de Businga, dans la province du Nord-Ubangi, dans le cadre de lutte contre la déforestation. D'après le président de cette structure citoyenne, le pasteur Justin Mananga, il existe plusieurs associations locales disséminées à travers les différents groupements dans la région qui espèrent voir les autorités du pays se pencher sur leur situation en leur accordant des subsides nécessaires pouvant leur permettre d'améliorer leur rendement et éviter le déboisement. L'ingénieur agronome Albert Elinga, l'un des formateurs des populations autochtones, en parle au micro de Radio Okapi.
Nous, ici à Businga, la population vit de la forêt. Donc, tous les groupements, vous trouverez les associations encadrées par notre association APEL, l'Association pour la protection de l'environnement et le développement durable. Nous seuls, on n'a pas de moyens, mais nous attendons de l'État, nous attendons des partenaires techniques financiers, les possibilités pour sauver ce qui reste à être sauvé. Comme nous travaillons en collaboration avec ces associations et que ces associations sont sur terrain, nous sollicitons que l'État puisse nous doter des moyens. Et lorsqu'ils verront de nous les moyens de subsistance, nous croyons bien que cette forêt sera protégée en bénéfice de l'humanité.
Réforme de la diplomatie congolaise, le Sénat a déclaré hier vendredi recevable la proposition de loi portant statut particulier du corps des diplomates de carrière, une loi qui vise à doter de la RDC une diplomatie l'une des plus compétitives et des plus puissantes. Initiée par la sénatrice Francine Muyumba, cette proposition apporte des réponses idoines aux mots qui gangrènent la diplomatie congolaise, censée pousser la communauté internationale à sortir de sa passivité pour condamner et sanctionner les agressions de la RDC. Pour son auteur, cette loi vise aussi à doter le pays d'un instrument qui va lui permettre de concrétiser son ambition à devenir un État émergent et une puissance régionale respectable à travers le monde entier. La sénatrice Francine Muyumba est au micro de Michel Kifindangoy.
Si l'on essayait de peindre le tableau de la diplomatie congolaise à ce jour, n'allons-nous pas faire face à une image très contrastée? Sur le plan organique et fonctionnel, n'avons-nous pas dénoncé une diplomatie qui fonctionne sur des principes surannés, sans politiques extérieures définies de manière permanente et durable? L'administration est politisée. On y rencontre toutes les formes d'antivalère, notamment le clientélisme, la corruption, les trafics d'influence, l'incompétence ou la sédentarisation des diplomates. La présente proposition de loi institue non seulement les métiers des diplomates encore, mais aussi en fait toute une carrière. Ne peut en principe être diplomate dans notre pays et ceux qui intégreront ces corps par un recrutement sur concours ou sur titre.
Autre nouvelle, la population de la commune de Kinshasa a été sensibilisée hier vendredi à la culture de paix et de vivre ensemble contre les discours de haine. C'était au cours d'une tribune d'expression populaire organisée par l'ASBEL Action Citoyenne de lutte contre les discours de haine en collaboration avec les affaires civiles de la MONUSCO. Une campagne qui va s'étendre dans toutes les communes jusqu'au mois de mars 2023. Jeff Ngoy.
Qu'est-ce qu'un discours de haine? L'organisateur de cette tribune, Gloire Manessa, coordonnateur de l'action citoyenne de lutte contre les discours de haine, explique.
Tout propos qui stigmatise, qui cible une personne par rapport à sa race, sa tribu, sa couleur, par rapport à son faciès, tout ça, ça constitue les discours de haine, les discriminations. Et à ces moments, les discours de haine posent un problème sérieux pour les droits de l'homme dans le pays, fragilisent même le climat de paix dans le pays.
Comment prévenir les violences? Madame Wing et Francine des Affaires Civiles de la MONUSCO.
Il faut privilégier le dialogue, la tolérance, briser tout ce qui est des discours de haine tribal.
Mais tout le monde n'a pas la même perception du discours de haine qui n'existe pas pour les uns, tandis que pour les autres, c'est une affaire de Kuluna. On écoute la population de Kisenso.
Peut-être dans les coulisses, mais généralement comme ça, aux yeux nus, pour rendre compte que vraiment il y a la haine qui est en train de se passer de part d'autre. Il y en a pas. Il y a la tranquillité, ça ne viendra jamais.
Dispute entre nous, cambriolage, le phénomène Kuluna, tout cela à cause de la haine, parce que nous ne dialoguons pas.
Entre nous, les voisins.
La haine, selon la dynamique pour le développement de Kisenso, rime avec 67 têtes d'érosion, des routes impraticables, des tracasseries policières et une forte démographie. La population pense qu'elle est abandonnée et interpelle l'État.
Et puis recruter le plus de jeunes à pratiquer le sport paralympique en RDC, c'est l'objectif de la journée de sensibilisation des jeunes vivant avec handicap organisée hier vendredi ici à Kinshasa par le Comité national paralympique. Cette journée a connu la participation de plusieurs personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. Betty Miangidila Mbenza, d'après le président de ce comité des jeunes vivant avec handicap, se prépare également à prendre part aux prochains jeux de la francophonie qui auront lieu ici à Kinshasa. Betty Miangidila Mbenza l'a dit à Paul Matendo.
Alors vous savez que le pays est en train de préparer les Jeux de la francophonie. Avec le soutien de l'ambassade de France, nous avons organisé ces deux journées de sensibilisation de la jeunesse. L'objectif, c'est de recruter le plus de jeunes possible à pratiquer le sport paralympique. C'est ça l'objectif. Pour que l'année prochaine, que nous ayons un grand nombre de gens, des personnes en situation de handicap qui pratiquent le sport, comme ça on peut les sélectionner facilement. On peut sélectionner les champions facilement. On a mis l'accent sur le Comité national paralympique. C'est quoi le Comité national paralympique? Quelles sont les activités que ce comité organise et compte organiser? Et puis le deuxième volet, c'était sur le droit de la personne en situation de handicap. Quels sont ses droits? Il faut qu'on arrive à changer la mentalité des gens. Il faut qu'on arrive à évoluer dans le sens qu'il faut qu'on prenne la personne en situation de handicap comme une personne à part entière qui a des droits et peut-être des devoirs. Mais ces droits, notamment le droit à pratiquer le sport.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, des dizaines de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale contre la présence française dans les pays. Ils exigent le départ de l'ambassadeur de France. Les manifestants ont occupé pendant des heures une partie du boulevard de l'Indépendance où est située l'ambassade française. Et puis, le chef du département américain de la justice a nommé ce vendredi un procureur spécial chargé d'enquêter sur Donald Trump. Et c'est un procureur du tribunal spécial pour le Kosovo à la Haye, expert en crimes de guerre, qui a été choisi pour se pencher sur l'ancien président qui vient d'annoncer sa candidature pour 2024.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est le colonel Antoine Kitenge, commissaire provincial de la police dans le Lualaba. Il nous parle de la mesure interdisant les motocyclistes de Kolosi d'accéder au centre-ville. Il s'entretient ici avec Jean Ngando. Suivez.
Mon colonel, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous venez de rappeler la décision qui avait été prise pour que les motards ne puissent pas entrer au centre-ville. Qu'en est-il exactement?
Exactement. On a remarqué qu'il y a des accidents qui continuent à s'augmenter. Il n'y a pas d'autre arrêté qui a été signé par l'autorité autorisant encore le motard d'aller en ville. Alors la loi est dure, mais c'est la loi. Qu'on laisse le véhicule en ville et que là où on dépose les clients qui descendent de bus, le motard peut commencer par là pour aller dans le quartier périphérique, que faire des embouteillages avec les motos dans les grandes artères. Ici, nous avons de gros véhicules tels que le trac avec des marchandises et tout. C'est très dangereux, c'est même pour leur sécurité.
Est-ce que vous avez des statistiques qui démontrent qu'il y a eu beaucoup de cas d'accidents causés par les motards au centre-ville?
Exactement, d'abord, par la réalité, c'est que les chauffeurs qui conduisent le trac et d'autres véhicules, ils savent même le code de la route, ils ont été formés pour ça. Mais les motards, je ne sais pas si vous avez eu le temps de conduire ici, voir comment les motards se comportent. Ils ne savent même pas, il faut dépasser à droite ni à gauche. Il vient, il dépasse comme il veut. Il quitte dans une avenue pour entrer dans au principal sans regarder ni à gauche ni à droite. Le récent, c'est un monsieur qui transportait 5 enfants sur la moto. Les enfants venaient de l'école. Il a fait tuer ses enfants.
Tous sont morts?
Il y a 3 qui sont morts et de 2 qui ont survécu avec des plaies graves. Or, la moto ne peut pas prendre 5 personnes. Donc, il y avait 6 personnes. Lui, il était les 6e personne. Il y avait l'enfant à côté du guidon, l'autre qui suivait, il y avait 2. Alors, c'est ainsi que dans le communiqué, j'ai interdit aussi ça. J'ai interdit aussi les motards, je ne sais pas si vous avez déjà vu les motards, avec beaucoup de charges de minerai derrière, il prend 2 personnes ou une personne qui est perchée au-dessus là. Moins d'accidents, c'est la tête qui casse. Et ils n'ont pas de casque aussi. Ça, j'ai aussi interdit. Donc, si il a mis ses minerais sur une moto, il peut prendre une autre moto pour arriver jusqu'à la destination. Mais pas se mettre au-dessus de minerais. Si la police te voit, il t'arrête.
Les motards disent que leur interdit d'accéder au centre-ville, c'est carrément n'est pas leur faciliter la tâche parce qu'il y a des quartiers qu'ils ne peuvent atteindre qu'en passant par les centres-villes. Ils vont prendre les détours qui sont beaucoup plus longs et donc ils pourraient être amenés à revoir à la hausse les prix de la course.
Et j'ai demandé même à l'organisation de faire de sorte que ceux qui travaillent à Kanina travaillent à Kanina. Ceux qui travaillent à Kassoulou travaillent à Kassoulou. Ceux qui travaillent, donc ils sont là où on dépose les gens, ils prennent les gens vers là où ils doivent les déposer. Aller en ville, qu'est-ce qu'il va faire en ville? Quel est le quartier que lui va aller pour aller faire là? Donc il y a des motos de l'autre côté là-bas qui laissent les autres là travailler. Il y a un président du parking qui connaît les motards qui travaillent là-bas. Ça va nous lutter même contre le kidnapping parce que tous les motards seront connus à partir de là. Que de quitter là-bas, circuler dans en ville ici avec 3-4 personnes sur la moto.
Qu'est-ce qui adviendrait à ceux-là qui ne vont pas obtempérer?
La mairie avait tout proposé. Il y a on va arrêter la moto, il va les payer à la mairie. Il y a une banque là à la mairie, il va payer là-bas. Et ces motos seraient restituées. Et de là, ils ne vont pas encore répéter.
Vous ne redoutez pas qu'il y ait un bras de fer entre les motards et vous à partir de cette décision parce qu'il y en a qui trouvent qu'elle est un peu dure vis-à-vis d'eux?
La loi peut être dure, mais reste la loi. Donc, comme l'autorité avait signé, et ça a été respecté, si ça a été repris, c'est pour que c'est un test qui, hier, j'étais avec tous les commandants pour dire qu'ils ont failli à leur mission. Et la loi reste dure. Si l'autorité, comme l'autorité avait déjà décidé, ça doit rester comme ça. On doit faire appliquer la loi. Donc, l'autorité de l'État ne doit souffrir d'aucune faille. Donc, la loi doit être respectée.
Est-ce que vous avez pris langue avec leurs différentes organisations pour leur parler et les sensibiliser encore davantage?
Oh, avant de faire ça, même le gouverneur de la province les avait aussi invités. Ils avaient parlé avec eux pour leur dire là où il doit marcher et là où il ne doit pas marcher. Et
quelles sont les limites qui ont été tracées?
Et ils savent, ce n'est pas toutes les avenues. Il y a par exemple LDK, l'avenue qui emprunte de gros véhicules. Parce que le gros véhicule ne passe pas dans toutes les avenues. Non. Il y a les avenues parallèles qu'on a créées. Là, il peut passer sans problème. C'est seulement de glace altérée. Le reste, il peut passer sans problème.
Mon colonel, je vous remercie.
Merci, monsieur.
Voilà, complètement terminée cette édition du journal, mise en onde par Polydor Basunga. Merci à toute l'équipe rédactionnelle sous la coordination de Pierrot et la Mégie et la supervision de Pélé Kipelamondo. Merci de nous avoir suivis.